philosophie politique par le père Samuel à Saint-Jodard, le 2 février 1993.
Alors, je vais vous présenter trois philosophes qui sont extrêmement différents. Le premier, ça sera Hegel. Le deuxième, Eric Weil, Weil, V-E-I-L. Et puis, le troisième qui est Hannah Arendt, qui est une femme juive.
Vous verrez pourquoi elle est intéressante.
Parce qu'elle... elle se veut très proche des Grecs et est retournée à Aristote. Alors le premier, c'est... Je ferai que vous donner des notes, hein, c'est-à-dire des pistes de réflexion, parce qu'il faudrait d'abord demander à Frère Marie-Dominique de faire un exposé ou à M. Bourgeois sur la philosophie politique de Hegel. Pour ça, il faudrait vous exposer l'ensemble de la pensée hegelienne, parce que sa philosophie politique, qui est essentiellement dans les principes de la philosophie du droit, est évidemment, comme tout ce que fait Hegel, inséré dans l'ensemble de sa démarche et en est absolument inséparable. Ce qui est intéressant, c'est que les principes de la philosophie du droit, qui est le lieu privilégié où Hegel étudie la philosophie politique, est le lieu où il étudie simultanément le problème de l'éthique et de la volonté.
C'est intéressant de voir que pour Hegel, le problème qui va aboutir... son point de départ, c'est le problème de ce qu'il appelle la moralité. Et la moralité, pour lui, est inséparable de la volonté et de la liberté.
Je crois que c'est capital de comprendre que la philosophie politique pour Hegel se situe, alors dans la grande ligne qui se veut héritière des Grecs, en lien avec la philosophie morale, mais que pour lui, c'est la logique du développement de la volonté à l'intérieur de la moralité qui justifie sa philosophie politique. Je vous lis la construction, l'introduction de la philosophie du droit. La construction générale de la philosophie du droit est l'esprit objectif ou le droit en général. Donc vous savez, il y a toujours trois moments chez Hegel. Un moment abstrait, un moment où le sujet s'approprie l'abstraction, il y a le « en soi », il y a le « pour soi », et puis il y a un troisième moment où précisément le sujet prend conscience de la manière dont il s'est approprié subjectivement quelque chose qui était abstrait et en soi, et dépasse le caractère de la subjectivité. C'est le mouvement général de Hegel, la réflexion générale de Hegel, elle se situe toujours en trois moments. Le premier qui est un moment qui est abstrait, le moment en soi, où la chose est posée. Le deuxième moment, où cette chose en soi, elle est assimilée par le sujet. Si vous voulez, d'objective, elle devient subjective, pour simplifier allusivement. Pour avoir un petit schéma. Et puis, il y a un troisième moment où le sujet dépasse cette subjectivité que l'objectivité lui a permis pour se redécouvrir d'une manière objective. Ça commence. C'est que, repasser à ce moment objectif, il y a de nouveau ce troisième moment, il est identique au premier moment, vous voyez, au premier moment du mouvement suivant. C'est-à-dire que la croissance de la connaissance individuelle, la croissance de la communauté humaine, la croissance de l'histoire, toute existence se développe selon cette logique, qui est au fond une logique de la connaissance, fondamentalement, qui est une logique du devenir de la connaissance. La connaissance est d'abord une connaissance naïve et objective, vous voyez, où on regarde les choses pour elle-même, puis dans un deuxième temps, elle est une connaissance dans laquelle le sujet s'approprie ce qu'il a connu, et dans un troisième moment, réfléchissant sur lui-même, il se repose de manière objective. Vous voyez, il objective, pour parler presque pas comme les psychologues, mais il objective ce qu'il vient lui-même de comprendre de lui-même. C'est ce qui se passe, hein, dans le devenir de la connaissance, c'est ce qu'on fait. On vous dit quelque chose que vous recevez comme un en soi, ensuite vous le découvrez en vous-même, et ensuite ce que vous avez découvert en vous-même, vous le reposez comme quelque chose d'objectif. D'accord ? Alors, en plus, cette croissance, elle a pour le passage de l'un à l'autre se fait par la négation. Donc l'esprit objectif ou le droit en général, vous voyez, le droit en général c'est le droit abstrait, se réalise en trois moments. Le droit abstrait ou la volonté libre n'existe encore qu'immédiatement. Ça c'est le moment de l'immédiateté. La moralité subjective, donc ça c'est le droit abstrait, la moralité subjective ou la volonté libre s'enfonce dans la particularité intérieure. Là, on est dans le particulier. Là, on est dans un universel en soi. Là, on est dans le particulier. On est dans la subjectivité. Dans le sujet moral, la moralité objective, enfin, la seule concrète, dont Hegel peut dire que la positivité morale n'est rien d'autre que la vie d'un peuple. C'est-à-dire qu'on va le voir, ce développement, on va voir ce qu'il donne du côté moral. Alors, ce mouvement, qui est le mouvement de la volonté, s'inscrit lui-même dans le développement de l'esprit. On va voir qu'il permet le développement de l'esprit. Et il permet le développement de l'esprit du côté de la vie éthique et de la vie politique. Alors, je ne vais pas vous détailler le mouvement de la volonté. Alors, le troisième moment, c'est ce qu'on appelle « chez soi ». Chez soi. C'est le retour à soi. Parce que là, évidemment, il y a un aspect négatif. Le sujet se définit par opposition à ce qui est en soi. Dans un troisième moment, il dépasse cette opposition. Et il se pose lui-même comme quelque chose d'absolu. Mais se posant lui-même comme quelque chose d'absolu, et n'étant pas encore l'absolu, j'allais dire, ce qu'il vient de poser de lui-même, il le pense comme de manière abstraite. Vous voyez, il y a une espèce de mouvement perpétuel. Et tant que l'esprit ne coïncide pas absolument avec l'absolu, ben il continue de progresser. Donc le souci de Hegel, c'est d'arriver à ce que ce mouvement arrive à réconcilier définitivement la vérité en soi et le sujet. Vous voyez, la vérité en soi et la subjectivité. Alors c'est clair, c'est ce que montre très bien le professeur Bourgeois, c'est que ultimement la vérité en soi et la subjectivité ne se réconcilient qu'en Dieu. Et même en Dieu, elles ne se réconcilient qu'à l'intérieur du mystère de la Trinité. D'une certaine manière, enfin, le mystère de la Trinité, il lui-même entre dans ce mouvement dialectique. Enfin, Hegel ne dirait pas qu'il rentre dans ce mouvement dialectique, mais il dirait que pour lui, la Sainte Trinité justifie ultimement, ou si vous voulez, la raison dernière et donc la raison première de ce mouvement dialectique. Dès le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Hegel introduit la notion d'État. Parce que je ne veux pas vous développer l'aspect du... Donc, vous voyez, il dit que la naissance du droit, c'est d'abord une moralité en soi. On définit des droits en soi, donc une objectivité séparée du sujet. Et puis il y a un deuxième moment où au fond, cette moralité en soi, il faut que je me l'approprie, qu'elle devienne ma moralité à moi. Mais cette moralité qui est ma moralité à moi s'oppose elle-même à la moralité de l'autre. Et donc elle ne peut pas encore être la moralité absolue. Oui, la difficulté, c'est de réconcilier la moralité en soi ou le droit en lui-même et le sujet. Or, l'individu, c'est ce qu'on va voir, l'individu ne suffit pas. L'individu n'est pas à la hauteur. Oui, je veux dire, je sais pas comment vous dire. L'individu n'est pas à la hauteur du droit en lui-même. Seul, on va le voir, la communauté, quand elle a la figure de l'État. Sous la forme de l'État,
réconcilie pleinement le sujet et le droit en lui-même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que Hegel décrit comme un mouvement logique, de manière très intellectuelle, ça correspond en même temps à la croissance d'un citoyen ou d'un individu dans la communauté politique. Dans un premier temps, l'enfant ou le jeune découvre le droit ou la moralité comme quelque chose qui s'impose à lui de l'extérieur. Puis dans un deuxième temps, il assimile cette moralité et il la fait sa moralité à lui. Mais se l'appropriant d'une manière particulière, il s'aperçoit qu'en fait, il la limite en se l'appropriant. Et qu'il n'est pas la moralité, vous voyez, qu'il ne suffit pas à incarner pleinement la moralité en elle-même. Et donc, précisément, à ce moment-là, il revient à la moralité abstraite pour essayer de grandir dans cette assimilation de la dimension morale. Et ce que dit Hegel, c'est que, on va le voir, seul l'État permet à l'individu d'atteindre la moralité de manière universelle. Vous voyez, c'est le seul moyen par lequel le sujet atteint la moralité, l'éthique, de manière universelle. Donc, l'individu se hisse à la hauteur de l'universalité de la morale, ne se hisse à la hauteur de l'universalité de la morale que grâce à l'État. Si vous vous souvenez de Rousseau, on va voir, la problématique est la même. Elle est posée très différemment, mais le problème de fond est le même. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le terme, donc. Voilà comment Hegel définit l'État. Alors, évidemment, il y a, si vous voulez, le passage de l'individu à la communauté, parce que cette dialectique, elle est d'abord intérieure. D'accord ? Elle est d'abord éthique. Puis ensuite, elle assume l'extériorité. Donc, elle se met à assumer les formes de communauté humaine. D'abord la famille, ensuite la société civile et ensuite l'État. Vous voyez, parce que le souci de Hegel, enfin je veux dire la logique d'esprit de Hegel, c'est au fond de quelle manière l'individu se hisse, s'identifie à la moralité universelle et en même temps à la communauté. Si vous voulez, comment l'individu atteint-il une justice absolue ? Vous voyez, je veux dire une... Comment est-ce qu'il arrive à réconcilier de manière absolue la dimension politique et la dimension éthique ? Ou comment, pour parler en thème aristotélicien, le bien personnel et le bien commun s'identifient absolument ? Voilà. Parce que, comprenez bien que ça, c'est du côté du bien commun. Ça, c'est du côté du bien particulier. Et le bien particulier se définit par opposition au bien commun dans un premier temps. Et il faut que j'apprenne à assimiler à l'intérieur du bien, du bien qui se présente comme un bien commun, qui est un bien... un bien en soi, à découvrir en quoi est-ce qu'il est mon bien. Mais ayant découvert que ce bien qui m'est présenté comme un bien en soi est mon bien, je n'ai pas encore atteint un bien qui soit absolu parce qu'il est encore mon bien. Et je ne peux m'arrêter que quand mon bien s'identifie avec le bien en soi et le bien de toute la communauté. Donc j'allais dire, la finalité, si vous voulez, de ce développement de la volonté, de la liberté et de la moralité, c'est d'aboutir à l'identité du bien commun et du bien personnel. Et l'État est la figure et la réalité qui réconcilie le bien commun et le bien universel. Et le bien, je veux dire, le bien personnel. Hegel définit l'État comme la fin et la réalité en acte de la substance universelle. Ou si vous voulez, l'État, c'est la manifestation concrète dans la sphère de la politique, dans la sphère de la communauté, dans le domaine politique, c'est l'incarnation la plus haute de l'esprit absolu. Et seule l'obéissance inconditionnelle et personnelle de l'individu à l'État, l'obéissance personnelle, c'est-à-dire que quand l'individu a compris que son bien personnel s'identifie au bien commun. Il n'y a que quand, si vous voulez, l'individu, précisément par la prise de conscience progressive de ce mouvement de l'esprit, et j'allais dire d'une certaine manière qu'à l'aide de la philosophie. La philosophie, telle que Hegel la développe, c'est la prise de conscience de l'esprit, par l'esprit, précisément de sa vocation à l'universel. C'est ça le travail de la philosophie, c'est la prise de conscience du côté de la connaissance, de l'esprit, à sa vocation universelle. Mais cette vocation universelle, je ne l'atteins pas que par la philosophie. Ça, dans la philosophie, je l'atteins encore de manière abstraite. Pour l'atteindre du côté moral, donc du côté de la volonté, c'est l'État qui le permet. Parce que l'État est précisément ce qui correspond à l'incarnation de l'esprit absolu du côté politique. Alors, je ne crois pas me souvenir que Hegel dit que l'État, c'est l'image de Dieu du côté politique. Je ne crois pas qu'il dise ça. C'est ce que je crois que la droite hegelienne poussera jusque-là, qui est au fond de justifier l'État, j'allais dire, jusque par la théologie elle-même. Vous voyez, c'est de dire qu'au fond, l'État, c'est la forme suprême, qui est à la fois précisément personnelle et communautaire. Et donc elle correspond à la vocation, je veux dire, elle correspond à l'esprit absolu qui est Dieu, qui est d'être à la fois universel et concret. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'État n'est pas conçu par Hegel d'une manière statique. L'État lui-même se développe au sein de l'histoire. C'est ça qui est beaucoup plus difficile à situer, d'ailleurs. C'est de savoir quel est le lien entre l'État et l'histoire. Alors vous voyez, pourquoi est-ce que, pour Hegel, j'allais dire la figure absolue de la moralité, ça n'est pas la communauté, ni le bien commun, ni la constitution, ni la loi, ni la justice, mais l'État. Parce que pour lui, seul l'État réconcilie concrètement l'aspect subjectif et l'aspect objectif. Vous voyez, la loi, c'est encore du côté abstrait. La communauté, c'est encore du côté subjectif. D'une certaine manière, l'État, précisément, il réconcilie la figure de la communauté et la figure de la loi. L'État, c'est à la fois la communauté dans son caractère le plus absolu, et c'est en même temps l'incarnation de la loi. C'est la loi concrète. Et le souci de Hegel, c'est pas le bien commun comme tel. C'est pas le bien, il ne cherche pas le bien commun, il cherche que le bien subjectif et particulier de l'individu coïncide avec le bien absolu. C'est pas tellement la dialectique entre le bien commun et le bien personnel, même si, encore une fois, l'État est d'une certaine manière en même temps il dit pas au service d'ailleurs, hein. L'État réalise, permet à chacun des citoyens de faire coïncider le bien commun avec le bien personnel. Mais l'État n'est pas conçu comme un moyen, il est conçu comme une fin. Et c'est dans la mesure où l'individu s'identifie à l'État qu'au fond, précisément, il dépasse, j'allais dire, son souci de bien particulier, et qu'il se hisse à la hauteur du bien absolu, qui est en même temps le bien de tous. Donc vous voyez, ce qu'on pourrait presque dire en comparant à Rousseau, c'est que si chez Rousseau c'est le contrat social qui permet de réconcilier le bien commun et le bien personnel, donc cette espèce de renonciation des biens de chacun au profit de la volonté universelle, chez Hegel dans une logique qui est autre, hein, parce que la logique, elle n'est pas comme chez Rousseau, que le voisin ne me fasse pas de, enfin, vous voyez, que le voisin ne me fasse pas de mal. C'est pas ça la logique de Hegel. La logique de Hegel, j'allais dire, elle a une ambition contemplative, d'une certaine manière théologique, c'est d'avoir une figure par absolue du côté politique et moral, une réalisation absolue du côté politique et moral. Mais d'une certaine manière, on peut dire que l'État, vous voyez, j'allais dire, c'est l'incarnation de la volonté universelle. Mais cette volonté universelle, je n'y rentre pas par la renonciation de ma volonté propre. J'y rentre précisément par cette dialectique de l'esprit. Vous voyez, j'accède à la volonté universelle. Donc c'est une croissance intérieure qui est à la fois, vous l'avez remarqué, un développement de la volonté et de la connaissance, qui n'est pas du tout le cas de Rousseau. Chez Rousseau, il n'y a absolument pas de dimension de la connaissance. Il suffit de renoncer à son bien particulier pour la volonté. Vous voyez, c'est purement du côté de la volonté. Rousseau n'est que du côté de la volonté. Chez Hegel, la dimension morale est du côté de la volonté, mais elle est inséparable de la prise de conscience. Alors, il y a un petit texte par lequel Hegel définit le lien entre l'histoire et l'État. L'histoire est le tribunal du monde. Les États, les peuples et les individus sont des instruments inconscients et des moments de cette activité interne dans laquelle les formes particulières disparaissent. Ça veut dire que d'une certaine manière, la figure même de l'État peut changer. L'État n'est pas absolument inamovible. Mais, encore une fois, l'État est ce qu'il y a de suprême du côté politique. Mais précisément, la succession, enfin, vous voyez, l'histoire est au-dessus de l'État. Parce que l'histoire est ce qui précisément préside à la destinée et au devenir des États eux-mêmes. C'est pour ça que pour Hegel, lire l'histoire par le haut, c'est vraiment lire les civilisations les unes derrière les autres selon le mode, vous voyez, j'allais dire, le caractère de gouvernement et d'État qu'ils ont développé. Ou si vous voulez, le génie d'une civilisation n'est pas pour lui lié à la forme religieuse, mais plus lié à la forme politique. Et ce qu'on peut presque dire, c'est que par rapport à l'État, vous voyez, l'histoire est à un autre niveau. Le regard sur l'histoire, hein, chez Hegel, il s'oppose à la notion de nature. Il y a la nature et l'histoire. Et l'histoire, c'est l'autre, c'est la non-nature, l'histoire. Mais c'est l'autre de la nature. La nature, il faut qu'elle passe dans l'histoire pour devenir vraiment universelle. Le mouvement de l'esprit, il est précisément la première forme de l'esprit, c'est de l'esprit divin, au sens de l'esprit absolu, c'est la création de la nature. Mais l'histoire, c'est l'autre forme du développement de l'esprit, qui n'est pas celui de la nature. Et seul le développement de l'esprit dans l'histoire, se servant de la nature et la dominant, accomplit l'esprit. Mais ça, j'allais dire, c'est le domaine où Hegel est presque du côté théologique, enfin, plus immédiatement théologique. Ça, c'est la théologie de l'économie divine de Hegel, l'histoire et la nature. Alors que là, on est encore en philosophie politique. Vous voyez, c'est deux regards différents. Alors, il les joint tous les deux. Mais je crois que c'est important de voir que, pour Hegel, l'achèvement de la philosophie politique, c'est pas au sens strict l'histoire elle-même. Ça, c'est un autre regard. C'est comme en philosophie réaliste, c'est une chose d'essayer de faire une philosophie de l'histoire, c'est autre chose de faire une philosophie politique. La philosophie politique, elle aurait quand même la réalité politique et la communauté en elle-même. Mais dans l'histoire, la figure de l'État est une figure déterminante. Le deuxième auteur, qui est un peu moins compliqué, qui n'est pas beaucoup plus simple, vous voyez, ce que je crois qu'il faut retenir de Hegel, c'est ce souci de penser, de réconcilier la pensée. Vous voyez, c'est d'avoir une, c'est le vieux rêve de Platon, hein, c'est d'avoir que le, c'est le philosophe roi, si vous voulez, c'est d'avoir une pensée philosophique et contemplative qui soit à la hauteur de l'activité politique. Et d'avoir une activité politique qui soit à la hauteur de, vous voyez, c'est la réconciliation entre la dimension politique et la dimension contemplative, c'est ça son souci. Hein. Donc c'est réconcilier simultanément l'individu et la communauté. La dimension contemplative et la dimension politique. Donc c'est de réaliser la figure la plus haute de l'humanité, si vous voulez. Et l'État, c'est l'âme d'une civilisation. Donc la réalisation la plus haute de l'homme, du côté de la réalisation, hein. La réalisation la plus haute de l'homme, c'est quand même le développement de l'État. Et ça, je veux dire, là, il rejoint la tradition grecque. La seule chose, c'est qu'il veut la penser d'une manière systématique. Alors, Eric Weil, qui est mort en 77, hein, donc c'est tout récent, lui refuse, face à Hegel, de penser le développement politique comme un développement nécessaire et vous voyez, un développement interne. Pour lui, et en ça il est kantien, c'est l'homme qui, par ses choix, donne une cohérence au projet politique. Et que la raison ne se développe pas par elle-même. C'est l'homme qui choisit de développer la raison. Et que pour lui, l'essentiel du problème, il est là. Il est que l'homme choisisse d'être raisonnable. Donc le problème de la philosophie politique à sa base, c'est le choix d'être raisonnable. Je ne suis pas sûr qu'Hegel aurait dit l'inverse, mais enfin bon, là-dessus, il veut se différencier de Hegel. Et donc, d'une certaine manière, et là, en ça, il rejoint d'une certaine manière Machiavel, vous voyez, face à une vision de Hegel qui est très déterministe, dans lequel, j'allais dire, le particulier, vous voyez, complètement dissous. Enfin, les accidents de l'histoire, sauf s'ils servent le génie politique, je dis, sont secondaires, j'allais dire. Ça fait partie des scories de l'histoire, pour Hegel. Pour Eric Weil, et là, en ça, il rejoint Machiavel, il y a une prise au sérieux du fait que chaque moment de l'histoire, et donc chaque moment de l'engagement politique, implique un choix. Donc, si vous voulez, la philosophie politique ne se gère pas par l'esprit. Elle implique un choix de la raison à chaque moment. Et donc, on va le voir, il y a une cohérence de l'esprit politique. Il y a une cohérence de la philosophie politique. Mais ce n'est pas la cohérence de la philosophie politique qui fait son efficacité, qui fait son humanité. Donc, il faut penser, pour Eric Weil, il faut penser la philosophie politique, mais ce n'est pas ça qui fait qu'elle va être juste dans l'application. Ensuite, il faut choisir de la vivre. Et il faut que non seulement celui qui a le pouvoir de la diriger la choisisse, mais il faut qu'aussi ceux qui y participent la choisissent. Pour Hegel, j'allais dire, l'histoire aura toujours raison de tout le monde. L'esprit, les ruses de l'esprit, il a des textes incroyables sur la ruse de l'esprit, qui est prince du monde. Il a des textes très très impressionnants, où au fond, l'esprit arrivera toujours à se servir de tout. Le développement de l'esprit, j'allais dire, la raison ruse dans l'histoire. Et donc, implacablement, elle se servira absolument de tout pour se développer. Alors qu'il n'y a pas du tout cette vision-là. Vous voyez, j'allais dire, là Hegel, d'une certaine manière, c'est presque un regard de providence. Vous voyez, c'est qu'au fond, dans la providence divine, Dieu se sert absolument de tout. Mais qui finira de toute façon par être victorieux. Mais c'est quand même ça qu'il y a par derrière. Le professeur Bourgeois souligne bien le caractère théologique, l'arrière-fond théologique permanent du souci hegelien. Eric Weiss, c'est pas du tout ça. Eric Weiss, j'allais dire, il est comme Machiavel. Vous voyez, il est dans le concret, tout est à jouer. Et j'allais dire, tout est à jouer à chaque instant. L'organisation politique et la vie politique, elle risque sa vie à chaque moment. Alors on va le voir, c'est comme pour Hannah Arendt, c'est qu'évidemment, Eric Weil et Hannah Arendt, ils viennent après le nazisme. Ils viennent après le communisme. Et donc c'est clair qu'ils ont l'expérience de ce que donne le développement d'une pensée qui veut aller jusqu'au bout de sa logique. Donc vous voyez, il y a une... J'allais dire, Hegel... est vu pour eux comme le danger, c'est-à-dire comme un mode de pensée. C'est bon, c'est pas du tout ce que veut penser Hegel, hein. Mais comme le risque d'une pensée qui prétend devoir s'appliquer nécessairement à l'intérieur de l'histoire. Pour le risque d'une pensée de type hegelien, c'est de justifier le totalitarisme. Et donc ils en reviennent à une, encore une fois, de manière très différente, hein. Eric Weil, il accepte la rationalité du raisonnement et la construction politique. Mais en reprécisant qu'à chaque fois, elle est l'objet d'un choix qui se joue dans les événements, qui se joue dans les contingences de l'histoire, qui se joue avec une part de hasard et de... Mais d'une certaine manière, et c'est en ça qu'il ressemble à Hegel, le souci politique, c'est lui aussi de permettre que ce qui est vrai en droit le devienne en fait. Donc, vous voyez, c'est l'exercice de la justice. C'est que ce qui est vrai de manière universelle se réalise concrètement. C'est quand même ça le souci fondamental de la philosophie politique d'Eric Weil. Donc c'est le choix et la raison et le sens des contingences historiques qui va permettre à celui qui gouverne d'inscrire dans les faits un certain droit, une certaine justice contre la violence. Oui, je vous disais tout à l'heure, il est kantien parce que Eric Weil, c'est une pensée qui est à la fois très claire du côté abstrait, mais qui, vous voyez, je sais pas comment vous dire, c'est du sur-mesure, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme toujours Kant, c'est-à-dire qu'il y a des catégories a priori, et la logique des catégories a priori, elle est très cohérente du côté de l'abstraction. Mais ensuite, elle ne s'applique pas massivement au concret, donc elle n'est pas totalitariste, et elle n'est pas non plus l'expression d'un développement nécessaire. Vous voyez, chez Hegel, la philosophie, c'est la manifestation à l'esprit du développement nécessaire de l'esprit dans l'histoire et dans le monde. Vous voyez, la philosophie de Hegel, c'est ça n'est que prendre conscience de quelque chose qui existe, même si je ne le pense pas. Vous voyez, donc il y a un développement nécessaire chez Hegel. Alors que chez Eric Weil, comme chez Kant, il y a un développement nécessaire du côté de la logique des concepts, si vous voulez. Mais ensuite, la manière de les appliquer, il faut les ajuster. Il ne faut pas s'imaginer que les concepts s'appliquent en eux-mêmes, ni qu'ils sont l'expression de ce qui se développe naturellement dans l'histoire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il souligne le caractère du choix. Il dit... Il faut développer la cohérence politique, comme le font les Grecs, il aime beaucoup les Grecs, comme le fait Platon, comme le fait Aristote, il faut penser à un idéal politique, avec des catégories rigoureuses. Mais ensuite, ça n'est que tout se joue dans la manière dont on l'applique. Et on ne doit jamais l'appliquer, j'allais dire, d'une manière idéaliste, c'est-à-dire comme si il n'y avait pas qu'à appliquer des catégories intellectuelles. Et là, je dirais, il est tout à fait kantien. Parce que Kant, c'est ça. Kant, il y a des catégories a priori qui sont des catégories de l'esprit. L'important, c'est que ces catégories fonctionnent concrètement. Et dans la critique du jugement, Kant montre très bien que quand on est du côté de l'art ou quand on est du côté de la politique, l'application des catégories, qui sont des catégories a priori, réclame un ajustement permanent. Alors que les catégories pures de la pensée, elles ont une logique nécessaire. Mais dès qu'on est face à la contradiction, dès qu'on est du côté pratique, quand on est du côté spéculatif, il y a un développement logique absolument nécessaire et cohérent. Mais dès qu'on est du côté pratique, il y a toujours un raisonnement logique, mais ce raisonnement logique, il s'ajuste dans le concret. Donc, j'allais dire, si vous voulez, c'est du... Je vous dis, c'est comme vous prenez un habit que vous avez fait avec un patron qui est le patron général, et puis ensuite, vous le mettez sur le dos du frère, il faut l'ajuster, si vous voulez. Ça, c'est le concept pratique. C'est un concept qui s'ajuste. C'est très étonnant la manière dont Kant met au point... C'est pas bête, d'ailleurs. C'est la manière de fonctionner, d'ailleurs, au fond de... La philosophie politique de beaucoup des démocraties occidentales, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir un plan directeur, si vous voulez, un idéal politique, une construction politique, mais ensuite, la manière dont on l'adapte, c'est en l'ajustant. Ce qui n'est absolument pas la vision aristotélicienne. Parce que la vision aristotélicienne, elle est en état d'induction permanente. Parce que, précisément, l'avantage de l'induction, c'est que ça permet à la fois d'être complètement dans le concret et à la fois d'abstraire sans formaliser. C'est ce qui est fabuleux. Mais c'est vrai, c'est un grave problème. Vous voyez, comment gouverner une communauté? À partir de quoi vous gouvernez? Comment vous le pensez, le bien commun? Puisque vous n'avez pas l'expérience d'une chose qui s'appelle le bien commun. Comment ça se pense? Alors, ou vous le pensez sous une forme abstraite. Bon, admettons que vous le pensez de manière abstraite. Comment est-ce que vous l'incarnez après ça, le bien commun? Vous dites, voilà, le bien commun, c'est une certaine organisation qui doit avoir cette forme-là générale avec une œuvre couée. Vous concoctez une image du bien commun. Comment vous l'appliquez après ça? C'est le premier problème. Comment est-ce qu'on pense le bien commun? Deuxièmement, comment est-ce qu'on l'applique? Est-ce que vous appliquez ce que vous avez pensé? Ou est-ce que ce que vous avez pensé, vous prétendez que c'est au fond le développement nécessaire de ce qui se passe? Oui, c'est pas simple. Comment ça se pense le bien commun? Parce que je n'en ai pas d'expérience directe. Vous ne rencontrez pas le bien commun. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au problème. Je sais que quand vous obéissez, c'est le problème du bien commun. Parce que quand vous obéissez, ce n'est pas votre bien personnel, simplement. Vous servez la communauté. Mais c'est qui la communauté? C'est quoi le bien commun dans la communauté? Vous voyez, quel est le petit concept que vous avez dans le crâne quand vous obéissez? À la place du mot bien commun. Quand on vous dit que, dans la règle de vie, que voilà, le prieur devra veiller au bien commun et au bien personnel. Celui qui obéit aussi. Alors qu'est-ce que vous avez dans la tête au mot bien commun? C'est pas évident, hein. Savoir précisément, est-ce qu'il faut le penser d'une manière logique, vous voyez, et conceptuelle, puis après ça on l'adapte, c'est-à-dire qu'il faut avoir une idée générale du bien commun, puis après ça s'adapte sur le terrain. Ou alors non, il faut le penser de manière très forte pour qu'on arrive à saisir la nécessité de la logique du bien commun. Et là après ça on peut l'appliquer au hachoir, si vous voulez, parce que une fois qu'on l'a pensé exactement comme il doit être, mais j'allais dire, vous voyez, si la droite hegelienne c'était ça, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pensé parfaitement le développement de l'esprit, la rigueur de son application, elle a pas à hésiter. Donc tout ce qui dépasse, vous voyez, on coupe. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est à la va comme je te pousse, c'est-à-dire que le bien commun, ben, on verra bien, quoi, c'est l'auberge espagnole. Ou alors c'est Machiavel, c'est-à-dire que le bien commun, l'important c'est de garder le pouvoir, c'est-à-dire que pourvu qu'on arrive à ne pas se trucider les uns les autres, le tout c'est de gérer, vous voyez, le problème de gérer les conflits. Il faut qu'il y en ait un minimum, parce que s'il n'y en a plus, ça manque de dynamisme. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça explose. Donc il s'agit de gérer un minimum de tension. C'est comme un cheval, si vous voulez. Et en fait, ça se fait à l'instinct. C'est comme sur un terrain de foot. Et donc c'est comme ça qu'il faut gérer le bien commun. Vous voyez, à l'estimative. Ou bien je vous dis, bah, on verra bien, quoi. L'esprit s'impousse, moi je hisse les voiles. C'est pas évident. Comment vous pensez le bien commun? Hegel a une solution, Eric Weller en a une autre. Donc Eric Weller, c'est il adapte. Il fait une espèce de compromis, quoi, entre une pensée qui dans sa formalisation a sa cohérence, mais qui ensuite est faite pour s'ajuster au concret. Alors, mais ça, je ne veux pas le développer. Eric Weller assume beaucoup des richesses de l'héritage de la philosophie grecque. Notamment avec l'importance de l'éducation et de l'éducateur, qui est l'élément clé de la politique. Le problème, évidemment, aussi, c'est de réussir, et là aussi rejoint le problème de Hegel, comment réussir à unifier des gens qui ont des morales particulières différentes sur une morale commune ? Même problème. Est-ce que vous imposez une morale commune ? Chacun de vous a un mode d'estimation et de comportement dans la vie qui a des modalités différentes. Alors, est-ce qu'il y a un modèle commun sur lequel tout le monde s'ajuste ? Précisément pour Eric Weil, c'est le problème de l'éducation. Vous voyez ? Ce qui pour Hegel était un développement de l'esprit nécessairement en lui-même, pour Eric Weil, c'est le travail de l'éducateur. Le travail de l'éducateur, c'est de faire prendre conscience à l'individu de la dimension universelle de sa morale particulière et de l'aider à dépasser sa morale particulière. Une manière qui n'est pas dialectique, pour le coup. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, Eric Weil met en lumière plus encore, je crois, que Hegel, la nécessité d'une pensée philosophique, de philosophie politique. C'est qu'au fond, la philosophie politique est précisément le lieu, la pensée nécessaire à l'agissement politique, parce qu'il est le lieu où, présentement, j'ai le souci de penser de manière universelle et d'une manière rigoureuse ce qui regarde la communauté dans son ensemble. Et où je fais l'effort de dépasser la particularité de ma culture et de mon jugement. Alors ensuite, à l'intérieur de ça, mais je ne vais pas vous le développer parce que ça, c'est les grandes lignes, il le développe, vous voyez, j'allais de manière très concrète, en montrant d'une certaine manière les relations des domaines de la politique les uns aux autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que son souci, c'est pas de comprendre l'homme politique. Vous voyez ? Son souci, même chose, le bien commun, il est pensé chez lui sous le caractère de l'universel. C'est par l'universel qu'on fait entrer l'individu dans le bien commun. C'est très intéressant, vous voyez. Là, j'allais dire, autant Hegel développait un mouvement de la volonté à côté d'un mouvement de l'esprit, mais l'état était atteint du côté de la volonté. Donc, d'une certaine manière, le bien commun était lié à la volonté. Le bien était lié à la volonté. Eric Weil, il a une pensée qui est plus intellectuelle. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éduquer à l'universel. Alors, il y a le problème du choix, mais le choix, il est lié à l'intelligence. Il ne développe pas tellement le thème de la volonté, du lien entre l'éthique et la volonté. Que c'est aussi le problème, vous voyez, c'est le bien commun, est-ce que ça se pense avec l'intelligence ? Quelle est la part de la volonté dans la découverte du bien commun ? Parce que le propre de l'amour, c'est que ça se découvre que par la volonté. Il faut que j'aime pour comprendre ce que c'est que l'amour. Donc il faut que ma volonté s'exerce pour que je comprenne ce que c'est que le bien. Le bien est incompréhensible en dehors de l'exercice de la volonté à son égard, c'est clair. Donc le bien, est-ce que je peux penser le bien commun sans agir envers lui ? C'est tout le problème. Sans vouloir le bien commun. C'est ça qui n'est pas commode, d'ailleurs. Vous agissez envers quelque chose, vous ne savez pas encore ce que c'est. C'est très bizarre, le bien commun. Comment vous faites pour... Votre volonté, elle s'engage comment à l'égard du bien commun ? Puisque si c'est un bien, c'est fait pour que la volonté s'exerce à son égard. Votre volonté, vous l'engagez, c'est qui a en face ? Comment vous voulez le bien commun ? C'est quoi que vous voulez quand vous dites que vous voulez le bien commun ? Vous voulez l'idée que vous en avez ? Vous voyez, c'est pas simple. Concrètement, c'est quoi le bien commun ? Alors, l'État n'est pas du tout vu de la même manière que chez Hegel, comme une figure absolue. Mais comme l'outil d'action de la Constitution, l'instrument d'action de la Constitution. Donc à la manière de déjà, enfin à la manière d'Aristote. Et le souci de, mais le souci de Erich Weil, et en ça il est différent de Hegel, et il pose de nouveaux problèmes, c'est le problème de la mondialisation de la politique. Comment penser la mondialisation, l'interdépendance politique et économique? Sans détruire les particularités. Oui, c'est son problème. Et là, c'est toute sa difficulté, parce que vous voyez, c'est pour ça qu'il a. C'est l'astuce de Kant, je vous dis, dans sa troisième critique, la critique de la raison du jugement, c'est d'avoir une espèce de concept adaptatif qui est à la fois semi-pratique, semi-spéculatif. C'est un concept pratique, quoi. Parce que vraiment, la difficulté, ça, Kant l'a perçu, et Erich Weil le perçoit aussi très bien, c'est comment respecter les particularités et, l'univers, vous voyez, et l'aspect universel. C'est tout le problème, hein, des nationalismes, de toute forme. Ou du bien commun dans une communauté internationale. Même problème. Comment respecter la différence des cultures et en même temps les faire vivre dans l'unité? Est-ce que c'est en pensant, vous voyez, un espèce de concept en soi, ou est-ce que c'est en adaptant à chacun? C'est pas simple. Quelle est la culture dominante? Est-ce que c'est celle du pays dans lequel on se trouve? Alors, il souligne comment, évidemment, alors là, la différence de Hegel, aucun État ne peut s'identifier à la raison. Parce que là, encore une fois, il est face au totalitarisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Et donc, il est très lucide sur le risque de la prétention de la raison à tout maîtriser. La raison doit accepter la violence. Elle ne peut jamais maîtriser complètement la violence. Et la vie politique se développe toujours dans la violence. Ça, c'est un thème comme Machiavel, si vous voulez, du côté pratique. Et tout le problème, alors, qui rejoint plus, je crois que c'est le frère François qui vous a développé ça, c'est le problème de Hobbes surtout, c'est de savoir, est-ce que le développement de la raison et donc du bien commun et de la philosophie politique, est-ce qu'il n'est pas mu par la peur de la violence? Oui. Est-ce qu'au fond, c'est la question que pose déjà Rousseau, hein, est-ce qu'au fond, on vit en communauté parce qu'on a peur de se faire du mal les uns aux autres? Oui, ce qui préside au gouvernement, c'est précisément de gérer la violence. Ça, c'est une question qui est très... Alors, Hannah Arendt, ça va être très rapide. Pas parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais parce que... D'abord, ce n'est pas une pensée systématique, Hédin. Donc, j'ai l'impression que c'est une pensée féminine. C'est par touche réaliste. Vous voyez, il y a des éléments qui sont les uns... Quand elle écrit des livres, ce n'est pas du tout des livres systématiques. D'abord, il y a chez elle le désir délibéré de revenir au grec. Par-delà, précisément, la tentation et le péché de la raison qu'ont été les totalitarismes nazis et staliniens. Donc de revenir à l'homme, de revenir à l'expérience de l'homme. En réfléchissant sur le travail, en réfléchissant sur l'action. Mais sans adosser sa réflexion à une réflexion sur la personne humaine. Donc son problème, enfin le problème qui pour elle est celui de la philosophie politique, c'est d'organiser un lieu, un espace, dans lequel il puisse y avoir une action commune. Vous voyez, la politique, j'allais dire, c'est la manière d'organiser la communauté, la culture et l'espace pour pouvoir permettre une action commune. Pour pouvoir permettre une juste articulation entre la dimension publique et la dimension privée. Pour pouvoir permettre un exercice de la liberté de la personne dans la communauté. Alors là, elle est grecque, au fond, elle voit bien qu'il y a une tension nécessaire dans la philosophie politique, donc dans le bien commun, entre la nature, vous voyez, entre la spontanéité de la nature, qui ne donne pas une communauté par elle-même, et la raison. Et la vie. Et elle ressouligne la nécessité que le lieu politique soit un lieu de dialogue. Vous voyez, là j'allais dire, les accents sont très différents de la dimension des rivelles. Il s'agit beaucoup plus de permettre, il ne s'agit pas de penser un régime politique, il s'agit de permettre, j'allais presque dire, l'exercice commun du bien. Et en ça, à mon avis, elle est beaucoup plus proche d'une réflexion aristotélicienne. Et qu'au fond, c'est de cette rencontre des individus dans l'espace politique que va se dégager la règle et la loi, mais pas a priori par la pensée. Donc elle n'est pas pour le philosophe roi, si vous voulez. Elle est plus aristotélicienne que platonicienne, très nettement. Alors, elle ne nie pas la nécessité de la loi, la nécessité de la constitution, la nécessité de l'État, mais ils ne peuvent jamais se substituer. Ils ne sont jamais les garants en se substituant à la personne. Vous voyez, j'allais dire, il n'y a jamais de déplacement du pouvoir absolu. Il n'y a pas, jamais de déplacement absolu du pouvoir. Comme chez Hegel, et d'une certaine manière comme chez Eric Weil. Chez Eric Weil comme chez Hegel, le déplacement du pouvoir par rapport au bien commun, il est du côté de l'État. Alors, avec des perspectives très différentes. Hein. Là, non. Le pouvoir ne peut pas se déplacer du côté de l'État. Il reste du côté de la personne. Alors, elle développe aussi, bon, ça c'est le risque du développement économique et technique, technologique, et la différence entre l'action et la technique. Ça c'est Heidegger et puis un Allemand qui s'appelle Habermas. Alors, elle aussi, elle s'appuie pas mal sur la critique du jugement de Kant, sur le jugement esthétique, mais d'une manière qui est très différente, vous voyez, de Eric Weil. Eric Weil est encore dans une vision très, très systématique. Ce qu'elle appelle le jugement de l'intelligence active. Vous voyez, c'est l'aspect pratique, le jugement pratique. Et puis, le dernier élément, qui est évidemment capital, et qui, à mon avis, est à prendre en compte dans une réflexion sur le bien commun, c'est le problème de l'histoire, pas du tout à la manière de Hegel, mais du passé. C'est-à-dire que la réflexion politique ne peut plus se poser aujourd'hui exactement dans les mêmes termes qu'en philosophie grecque. À cause de l'expérience de la révolution, à cause de l'expérience du totalitarisme. Et à cause de cette prise de conscience de l'histoire. Donc, vous voyez, la politique est un des lieux où le bien commun doit prendre en compte l'épaisseur historique. Vous voyez, doit assumer le passé historique et culturel. Ça me semble très intéressant. Et donc, elle cite pas le mot, hein, mais il y a tout un travail de la tradition. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'au fond, une philosophie politique, elle se développe sur une culture et une tradition. Et que cette culture et tradition, elle implique de garder la mémoire de ce qui s'est passé, de savoir s'en servir. Si elle utilise le mot tradition, pardon. Et elle souligne comment la rupture d'une tradition qui fonctionnait toute seule, si vous voulez, le fait que la tradition aujourd'hui ne se continue plus d'elle-même, nécessite de la reprendre, vous voyez, de la considérer comme faisant partie du bien commun et de choisir qu'elle fasse partie du bien commun. Ça me semble extrêmement, pour l'Europe, enfin, sur la réflexion philosophique sur l'Europe, ça me semble très important. Alors, ce qu'on peut souligner, alors elle développe aussi, hein, la manière dont précisément face à Rousseau ou face à Hegel, et même face à Eric Weil, le domaine du politique est à la fois un lieu de réflexion philosophique et en même temps un lieu de contrat, d'engagement personnel. Oui. Donc il n'y a pas de contrat social, mais il y a précisément elle situe très bien le lien en philosophie politique, et notamment par rapport au bien commun, qu'il y a entre la réflexion et le choix. Le dialogue, la réflexion et le choix. C'est-à-dire que j'allais presque dire, il faut réfléchir à plusieurs avant d'être capable de choisir ensemble quelque chose. Alors, c'est présent chez Aristote, hein, tout ça, mais j'allais dire, vous voyez, elle souligne des éléments qui, face à ce que l'histoire a vécu, à mon avis, rend les textes d'Aristote encore plus intéressants. Il faut qu'il y ait une recherche commune de vérité pour qu'il puisse précisément y avoir l'établissement d'un certain consensus politique. qui n'est pas quelque chose qui est pensé en soi et qui doit s'installer comme ça, ni quelque chose de pensé en soi et qu'on doit adapter dans le concret, grosso modo. Alors, la dernière chose, c'est ce qui me semble, enfin, c'est mon avis, repose le problème du bien commun, parce qu'on aura la question disputée la semaine prochaine, et qui manque, à mon avis, à ces trois philosophies politiques, comme à celle de Machiavel et à celle de Occam, évidemment, c'est le problème de la personne. C'est que dans aucun cas, on essaye de penser l'homme politique. Oui. Toutes ces réflexions sont des réflexions. Même la dernière, celle de Hannah Arendt, qui est une réflexion sur l'action. C'est une réflexion sur l'action humaine, mais ce n'est pas une réflexion sur l'homme agissant. Oui. Donc j'allais dire, aucune de ces réflexions n'est précédée d'une réflexion philosophique sur la de philosophie du vivant, oui, de philosophie de l'art, de philosophie éthique surtout. Effectivement, la difficulté, penser le bien commun comme un bien commun en soi, c'est pas difficile. C'est pour ça que je vous posais la question, quel est le lien entre vous et le bien commun? Qu'est-ce qui est en commun de moi? Oui. Qu'est-ce qui fait partie de moi-même dans la communauté? C'est ça la question qui est liée au bien commun. Est-ce que vous faites partie de la communauté? Qu'est-ce qui fait partie en vous de la communauté? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Qu'est-ce qui pourrait en faire partie et qu'est-ce qui ne peut pas en faire partie? Et puis qu'est-ce qui en fait partie? Donc qui fait partie du bien commun parce que vous êtes humain, et qu'est-ce qui fait partie du bien commun parce que c'est un bien commun divin? C'est pas déjà au niveau philosophique et théologique. Parce que vous comprenez, le bien commun, c'est pas une espèce de petite chose, et moi je suis devant le petit chose. Parce que si c'est commun, c'est un bien, j'allais dire, j'en fais partie, il y a des parties de moi-même qui font partie du bien commun. Parce que c'est très étonnant, si vous essayez d'enlever tous les individus, il n'y a plus de bien commun. Ce qui montre bien que le bien commun est inséparable des personnes. Une mousse au chocolat est toujours une mousse au chocolat, même s'il n'y a plus le cuisinier derrière. Mais le bien commun n'est plus le bien commun s'il n'y a plus les personnes qui agissent sur ce bien commun. Ce qui montre bien que le bien commun, ce n'est pas une chose. Qu'il n'est pas séparable des personnes. Donc qu'est-ce qui en moi fait partie du bien commun ou s'engage dans le bien commun? Ce qui renvoie à la question, qu'est-ce que c'est que la personne, la communauté par rapport à la personne et la personne dans la communauté ?